Ce matin, on va terminer notre série sur les enfants et on se rappelle ensemble que dans la série sur les enfants, Joël nous a parlé ensemble de l'importance des enfants pour Jésus, comment Jésus trouvait les enfants importants. Il dit « Laissez venir à moi les petits-enfants » et il a aussi utilisé l'image d'un enfant pour nous montrer la foi. Donc, on a vraiment cette base-là, à quel point pour Dieu, les enfants sont une richesse. Pas comme aujourd'hui, un fardeau parfois, hein? Des stoppeurs de carrière ou des choses comme ça. Non, pour Dieu, les enfants ont une grande valeur et sont importants. Le deuxième point avec Tony, on a regardé il y a deux semaines maintenant l'idée de l'éducation des enfants, comment faire la discipline, comment regarder et être un parent ou un adulte qui va bien gérer sa maisonnée, bien gérer ses enfants. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler, moi, de terminer notre mini-série avec cette idée-là de transmettre la foi à nos enfants. Et là, je viens devant vous, c'est bien humblement que je vous annonce ça, là. Il n'y a pas de raccourci. J'ai pas de truc pour vous. Si je suis ici, en avant, en train de partager la parole de Dieu, c'est pas parce que mes parents sont parfaits. Ils ont fait une super job, là. Mais c'est la grâce de Dieu. Et ce matin, j'aimerais construire avec vous cette idée que transmettre la foi à nos enfants, c'est une grâce de Dieu sur laquelle chaque parent, chaque être humain, chaque chrétien doit bâtir. C'est mettre en place des priorités bibliques. C'est regarder les enfants comme Dieu les regarde et donner une valeur aux choses que Dieu valorise dans notre vie. Et ce matin, comme d'habitude, je vais peut-être être un peu intense. Parce que, et je vais commencer par ceci, et je vous invite à tourner dans Deutéronome au chapitre 6. J'aimerais vous dire que dans l'éducation de nos enfants, il y a une réalité qui est tellement importante, et c'est la suivante. Nos silences parlent souvent plus fort que nos paroles. Et nos actions comptent beaucoup plus que nos paroles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous entendez souvent, et je fais, on plonge dans le sujet ensemble, vous entendez souvent, il y a une phrase qui est devenue populaire que j'aime pas vraiment, et je vais vous expliquer pourquoi, mais qui dit la chose suivante, évangélise en tout temps et parfois utilise des mots. Est-ce que c'est vrai? J'aimerais vous dire non. Cette phrase est fausse. Comment en entendront-ils parler si personne n'agit bien et aime son prochain? C'est ça le verset? Comment en entendront-ils parler si personne ne parle? Comment parleront-ils si personne n'est envoyé? J'aimerais vous dire que cette phrase-là ne fonctionne pas pour l'évangélisation parce que le chrétien doit proclamer haut et fort qui est Christ, qui est Jésus et qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. Mais j'aimerais vous dire que cette phrase-là, elle est vraie quand on parle de nos enfants. Parce que pour tous ceux et celles qui ont des enfants, vous savez, comme moi, que ce qu'on dit en tant que parent rentre par une oreille et sort par l'autre. Mais ce qu'on fait marque nos enfants d'une façon intense. Mes enfants me disent souvent, « Papa, tu te souviens quand tu faisais ça? » Non. Je m'en souviens pas vraiment. Moi, j'ai dit, « Tu te souviens quand je t'ai dit ça? » Non, papa. Tu n'as jamais dit ça. Et donc, on ne parle pas le même langage. Hein? Tout le monde qui a des enfants, ils le savent. Là. Vous êtes tous d'accord avec moi. Je suis sûr de ça. Sinon, ça s'en vient. Mais j'aimerais qu'on construise ensemble cette réalité-là de, on est appelé ensemble en tant que chrétien, en tant que parent chrétien, en tant qu'ami d'une famille chrétienne, ensemble, on est appelé à, premièrement, être des exemples. On transmet la foi à nos enfants en connaissant Dieu, en vivant notre foi et en étant conséquent à notre foi. Et finalement, on est appelé à poser des bases et à, après avoir posé nos bases, leur donner leur juste valeur. Et ensemble ce matin, j'aimerais vous lire, et c'est les textes sur lesquels on va se baser, on va lire Deutéronome chapitre 6 et on va lire les 9 premiers versets. C'est là qu'on va commencer ensemble et vous allez voir l'appel de Dieu. Le commandement de Dieu pour chaque parent, c'est vraiment cette idée de transmettre la foi par l'obéissance personnelle. OK? Donc, Deutéronome 6, on va lire le texte. Ensuite, on va confier ce temps-là dans les mains du Seigneur et ensuite, on va plonger. Donc, Deutéronome 6, je vais lire les 9 premiers versets. Donc, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Toi, tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Seigneur Jésus, ce matin, on veut simplement se rappeler que tu es un Dieu redoutable. Seigneur, on veut se rappeler que tu es un Dieu qui, par ta main puissante, par ton bras fort, tu as sorti ton peuple de l'esclavage. Seigneur, par des grands prodiges, tu t'es montré supérieur à tous les dieux d'Égypte, à cette puissance humaine, Seigneur, qui dominait le monde en son temps. Tu t'es montré supérieur par la prière, par des démonstrations puissantes. Et Seigneur, ces choses, tu as demandé à ton peuple de se les rappeler, de les enseigner à leurs enfants, d'en parler à tout moment. Parce que Seigneur, c'est toi qui es la source de la vraie vie. C'est toi qui es la source de la joie. C'est toi qui es la source du bonheur. Et on ne parle pas ici d'un bonheur terrestre, mais bien de te connaître, Seigneur. Tu nous dis dans ta parole que tu te plais à te faire connaître à nous. Et Seigneur Jésus, tu cherches à nous encourager à te chercher, à te trouver, et en tant que chrétien, à communiquer tes réalités à nos enfants. Seigneur, c'est bien humblement qu'on veut se présenter devant toi en te disant que sans toi, on n'y arrivera pas. Seigneur, on a besoin de ta grâce. Et ce matin, on te demande de bénir ces paroles dans nos cœurs, de les enraciner profondément, afin que chacun d'entre nous, père, mère, amis, grands-parents, puissions trouver comment transmettre notre foi à nos enfants, afin qu'ils puissent être des gens qui vont croire, qui vont être éclairés de ta parole. Et Seigneur Jésus, qu'ils puissent te glorifier par leur vie, te donner leur vie et que tu puisses les sauver. Seigneur Jésus, on te prie ces choses pour ta gloire. Amen. Alors, ce matin, on va, dans un texte comme ça, j'aimerais vous amener cette base. Ensemble, j'aimerais qu'on regarde un peu qu'est-ce qui est attaqué dans notre vie en ce moment. Vous savez, c'est de plus en plus difficile pour la génération, les générations présentes de connecter avec les générations qui viennent. Vous êtes conscient peut-être comme moi du gap, du schisme, de la séparation qu'il y a entre les générations aujourd'hui, les générations d'Internet qui peuvent dire des choses et ils ont 2000 amis sur Facebook, mais dans la réalité, quand c'est le temps de déménager, il reste juste papa-maman, on ne sait pas pourquoi. Et j'aimerais vous dire qu'on a à se battre. Le combat, c'est une des conclusions qu'on peut tirer ensemble dans l'exercice de regarder les textes. Le combat de transmettre la foi, il est spirituel. Et j'aimerais poser une autre base avec vous. J'aimerais vous dire que vous le sachiez ou non, vous transmettez votre foi à vos enfants. Que vous en soyez conscient ou non, vos enfants vous regardent et vous imitent. Et parfois, je rencontre des parents qui disent « Je ne comprends pas pourquoi mon enfant il est comme ça. » Pourtant, je lui enseigne les bonnes choses, mais on rencontre des personnes qui disent une chose et en vivent une autre. Et les enfants, ils ne font pas ce que vous dites. Ils font ce que vous vivez. Et un besoin primaire, c'est que le monde est en train de détruire trois choses principales. Le monde brise les bases que la Bible veut établir depuis toujours. La première base que le monde essaie de détruire, vous êtes conscient comme moi, c'est l'existence de Dieu. On est à la base. Le monde est constamment en train de détruire ou d'attaquer la réalité d'un Dieu créateur. Le monde tente d'inventer quelque chose de différent. Et là, ils inventent l'évolution. Et là, ils regardent des choses. Ils rajoutent des milliards d'années. Et quand on regarde la réalité, il y a des principes mathématiques dans l'idée même de l'évolution qui ont changé. Okay? Pour ceux et celles qui, comme moi, sont un petit peu pas des professionnels en mathématiques, j'ai appris récemment que le hasard, c'est une formule mathématique qui permet de calculer les probabilités de quelque chose. Mais quand on parle de l'évolution, soudainement, quand je rajoute un milliard d'années à une formule mathématique pour calculer les probabilités de quelque chose, la formule mathématique sur des milliards d'années se crée, en fait, gagne un pouvoir créateur. Mais pourtant, c'est juste une formule pour calculer des probabilités, là. Elle n'a aucun pouvoir créatif. Mais le monde veut tellement se débarrasser de la première base de notre monde, qui est celle que nous sommes des créatures dépendantes d'un Dieu créateur qui, lui, est éternel. Et il n'a besoin de rien, il n'a pas besoin de nous, nous avons besoin de lui. C'est la première base que le monde tente de détruire. La deuxième base que j'aimerais vous dire, que le monde tente de détruire, c'est l'idée du couple. Un homme pour une femme, à la vie, à la mort. Ça, c'est pas populaire. Aujourd'hui, si vous allez dans les écoles primaires, l'idée d'un couple est maintenant, c'est un brouillon. OK? On est parti du chef-d'œuvre de Dieu et on arrive avec un brouillon fait par un enfant de 5 ans. Et maintenant, c'est plus la beauté du couple complémentaire qui s'aide et qui s'aime et qui, ensemble, vont vraiment refléter cette image-là d'un Dieu amour, d'un Dieu qui prend soin de nous, d'un mari qui prend soin de sa femme, d'une femme qui supporte son mari et qui en prend soin, et qui maintenant, ensemble, la conséquence logique, c'est qu'ils vont avoir des enfants. Aujourd'hui, le couple est attaqué constamment. L'idée même qu'un couple, c'est un homme, une femme, c'est ben voyons donc. Aujourd'hui, le monde détruit et attaque une base. Et la troisième base, c'est celle qui nous intéresse le plus ce matin, c'est l'idée de la famille. L'idée de la famille, la valeur d'une famille. Et ça, c'est quelque chose que, si vous êtes comme moi, vous allez avoir de la difficulté à comprendre cette attaque-là. Moi, j'ai grandi avec mes deux parents. avec mon frère. J'ai été haïssable. J'ai fait bien des niaiseries. J'ai vu bien des affaires. Mais il y a une chose qui m'a toujours gardé, c'est que je savais que j'allais avoir mon papa et ma maman, même si des fois c'était pas facile, bien, ils allaient être ensemble. J'allais revenir, puis il n'allait pas avoir des sacs à vidange sur le bord de la porte, même si des fois, ça aurait pu arriver. Mais on est conscient, la valeur d'une famille, ce que c'est d'avoir quelque chose de riche, de bon. Aujourd'hui, si vous demandez à un enfant, à la maternelle ou à la première année, de vous décrire une famille, il y a du monde là-dedans, mes amis, là. Il y a papa, maman, maman 2, papa 3, il y a papa auxiliaire, il y a la figure paternelle, il y a l'ami, il y a le chien qui compte maintenant. Et on arrive avec un monde, et là, on va leur apporter des valeurs bibliques. Et là, on va parler de transmettre la foi. Et on ne doit pas être inconscient qu'on se bat contre un monde qui brise et qui attaque des bases simples, faciles et qui sont là depuis la création du monde. Et quand on travaille avec des bases brisées, ce serait correct, ce serait quand même acceptable si on n'avait pas à se battre contre une deuxième réalité, c'est qu'on a mis au monde et que nos enfants sont des pécheurs professionnels. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais c'est une réalité qu'on doit s'accrocher. On doit la réaliser, en fait. On doit s'accrocher au fait que je suis un pécheur en tant que père. Je suis un pécheur. Et j'ai mis au monde des enfants pécheurs. Et je les élève avec une femme pécheur. Entouré d'amis pécheurs. Avec des collaborateurs à l'école du dimanche, à l'école publique, partout, qui sont pécheurs. Et parfois, quand on discute entre parents, on a cette idée-là, je ne comprends pas comment mon enfant a pu faire ça. Bien, j'ai une réponse facile, c'est un pécheur. Il y en a une un petit peu plus compliquée, qui est simplement que le cœur est tortueux plus que tout, qui peut le contrôler? Et aujourd'hui, on se fait enseigner constamment « Suis ton cœur ». Et je commence en établissant, ces bases-là, là, ça peut faire peur. C'est le genre de base que vous allez vous dire, oh, « Marco, il a mangé un bol de cornflakes qui était passé date, puis là, il est marabout un matin. » Mais c'est pas la réalité. J'aimerais vous dire que dans le monde chrétien, élever nos enfants, on commence avec 2 prises et demie. Pour ceux qui connaissent le baseball, là, on commence avec 2 prises. On n'a pas vraiment place à être oisif ou à aborder le sujet d'une façon simpliste. On est toutes bien intentionnées. J'ai jamais rencontré personne qui me dit « Moi, je veux que mon enfant, c'est un petit bum, puis qui se promène en civique avec la calotte à l'envers puis qui boive du Monster. » Personne m'a dit ça. S'il y en a, je ne les ai pas rencontrés. Ils ne doivent pas être à l'église. Mais on va bâtir ensemble ce matin cette réalité-là. Comme je vous ai partagé tantôt, nos enfants nous imitent depuis la plus tendre enfance. Et même si, comme Tony nous a parlé, on n'est pas appelé à répéter les erreurs du passé, ce que nos parents ont vécu, comment on a été élevés, parfois, on n'est pas appelé nécessairement à reproduire ça. Mais veux pas, nos enfants vont nous imiter. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais commencer avec vous cette réalité qu'on voit dans Deutéronome 6 et on va aussi tourner dans Psaume 78. La réalité suivante qui est, afin de transmettre la foi à mes enfants, je vais bâtir sur une chose. Et une chose seulement ce matin, c'est la chose suivante. Est-ce que Dieu, par l'entremise de son Fils Jésus-Christ, a transformé mon cœur afin que j'aie un cœur semblable à celui du Père Céleste, afin que la personne de Christ soit tellement puissante et forte dans ma vie que mes enfants vont voir Christ à travers moi et que mes paroles seront constamment validées par mes actions. Et là, à tous ceux et celles qui sont parents, je m'excuse. Parce que ce matin, ça va être les paroles de Dieu pour vous. Et quand je les lis, quand je les fais, je vous annonce que moi, j'ai tombé à genoux toute la semaine, puis je suis tombé un peu en dépression spirituelle. C'est une image. Parce que vous savez, c'est difficile. C'est la réalité qu'il n'y a pas de pause au combat. Parce que la journée où tu prends une pause de dire « là, je ne suis plus capable », c'est là que Satan est caché comme un lion qui est prêt à surgir pour dévorer. Et j'aimerais vous dire que c'est un combat constant. Vous avez une pause quand vous dormez. Parce que les péchés que vous commettez quand vous dormez, vos enfants ne les voient pas. Hein, c'est populaire, le gars, il est positif un matin. Mais c'est vraiment cette réalité-là, vous savez, parce que connaître Dieu, c'est la base de tout. Si vous êtes un chrétien et, en fait, si vous vous nommez chrétien, mais que Jésus n'est pas le centre ultime de toutes vos décisions, et là, vous essayez de partager une foi, et votre foi, elle est le dimanche matin. Votre foi, elle n'est pas forte. Votre foi, elle bat de l'aile. Attendez-vous pas à que vos enfants soient en pleine forme. Parce que le baromètre spirituel de votre famille, c'est vous. C'est pas vos enfants. C'est pas le voisin. C'est pas le leader jeunesse qui est tellement cool et exceptionnel. C'est vous. Et on a cette manie-là de donner un fardeau au pasteur ou au leader jeunesse qui n'est pas le leur. Ils sont un appui et on est là pour vous supporter, vous encourager. Parce qu'on va se le dire, c'est pas facile. Personne n'aime ça, se chicaner avec ses enfants, parce que ses enfants ont peut-être raison. Personne n'aime ça, se faire dire qu'ils ne sont pas corrects. Mais on va bâtir ensemble. Regardez ici le texte de ce matin. Au verset 1 du chapitre 6 de Deutéronome, il dit « Voici les commandements et les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. » Donc ici, est-ce qu'on parle d'une transmission seulement oral, ou ici, Moïse, en écrivant ce texte, est en train de dire au peuple, ce que je vous dis, il faut le faire. Hein? Ici, Moïse n'est pas en train de dire, voici, vous allez répéter ça tous les samedis matins dans la synagogue. Non. Il dit, afin que vous les mettiez en pratique, verset 2, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi ton fils, le fils de ton fils, toutes ses lois et ses commandements. « Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, tous les jours de ta vie, pas juste le samedi dans la synagogue, pas juste quand tu prends le temps de lire ta Bible. En tout temps, tu auras soin, écoute Israël au verset 3, tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. Comme l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. » Trois fois en trois versets, « Mets en pratique. » Mets en pratique, mets en pratique tous les jours de ta vie, tous les jours de ta vie, tous les jours de ta vie. Quand la Bible répète quelque chose, gang, c'est important. Les Hébreux, ils n'ont pas de point d'exclamation. Ils ont la répétition. Et là, ils répètent, mets ces choses-là en pratique. Et Jésus résume toutes ces choses. Mettez ces choses en pratique et ne vous bornez pas à les écouter comme le font les païens. Ne vous perdez pas en répétition. Non, mettez les choses en pratique. Et là, il continue. Écoute, Israël, l'Éternel, Yahweh, notre Dieu, est le seul, l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Si je bâtis ma transmission de la foi sur autre chose que ces versets-là, je vais transmettre à mes enfants une réalité spirituelle qui n'est pas biblique. Et je vais transmettre une réalité spirituelle non biblique fondée sur mes propres compréhensions des versets. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Est-ce que j'ouvre la porte en tant que parent? Et j'ai entendu ça récemment. Et c'est une vision qui est quand même populaire depuis le milieu des années 80, qui veut simplement exprimer la chose suivante, de dire « Je vais laisser à mon enfant des portes ouvertes qu'il puisse entendre plusieurs visions différentes et là, il choisira celle qui l'intéresse le plus. » Et c'est présent dans notre monde chrétien, plus qu'on pense. Et Deutéronome 6, écrit il y a longtemps, me dit, écoute, Israël. Et là, je vais tricher, je vais faire quelque chose. Écoute, Marco, écoute-toi. L'Éternel, ton Dieu, est le seul. L'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Il n'y en a pas d'autre. Il y a peut-être des petits dieux, mais bâtis ta vie. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais le Créateur? C'est la base. Il n'y a rien d'autre que tu peux transmettre. Est-ce que tu connais le Créateur? Et ensuite, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le premier des commandements. C'est le plus grand. Et voici le second, disait Jésus, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En cela est résumer toute la loi et les prophètes. Donc, est-ce que je suis appelé à transmettre autre chose que cette réalité-là? J'aimerais vous dire que, en tant que parent, si je suis capable de transmettre cette réalité-là à mes enfants, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Je viens de gagner 80% du combat. Et comment est-ce que je fais pour démontrer ces choses-là? Je me questionne à tous les jours. Est-ce que j'aime l'Éternel de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force? Ah, peut-être le dimanche, quand je les force à s'habiller pour venir à l'église. Mais là, le lendemain, on dirait que j'ai trop fait de bench, j'ai mal au pec. Je ne suis pas capable aujourd'hui de forcer comme il faut. Je ne pourrais pas aimer le Seigneur de toute ma force aujourd'hui. Ah là, on a eu une grosse journée hier, pour vrai, j'ai tout donné hier, aujourd'hui, je prends un break. Et vous savez, c'est cette réalité-là qu'on doit avoir. Aimer l'Éternel de tout notre cœur. Et la suite des versets, les versets 6, 7, 8 et 9, je vais la résumer de cette façon-là, comme je vous l'ai dit. Nos enfants nous regardent constamment. Et je vais enseigner à mes enfants beaucoup plus par l'exemple que par la parole. Parce que comme on s'est dit tantôt, puis qu'on est tous conscients d'eux, les enfants, tu leur dis quelque chose, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Mais les gestes qu'on fait, les moments qu'on va passer, vont avoir un impact. Et comment est-ce qu'on peut montrer à nos enfants qu'on aime l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées, de toute notre âme? Vous savez, il y a des moments dans votre vie où ça va être difficile, où vous allez vous sentir comme le pire des pécheurs. Et votre réaction va montrer à vos enfants, premièrement, l'importance de votre foi. Si quand votre char brise, c'est comme « Seigneur, c'est quoi ce niaisage-là? » Vous venez de montrer à vos enfants l'ingratitude. Et là, je ne vous parle pas en étant le moins coupable du monde. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, je lutte avec la colère et je suis un homme explosif. Et donc, j'ai montré à mes enfants plusieurs fois à traiter le monde d'innocent. Et ce n'est pas une bonne chose. Mais vous savez quoi? Je leur ai dit au moins 1000 fois de suivre le Seigneur de tout leur cœur. Et ils m'ont vu, matin après matin, ouvrir ma Bible, prier, prendre un temps. Ils m'ont vu prier pour eux le soir quand je vais les coucher. Ils s'en souviennent. Ils savent. Mais savez-vous quoi? Ça ne leur tente pas de lire leur Bible le matin. Mais et que dès qu'il y a quelqu'un qui me coupe en char, là, c'est un innocent. Et là, je me dis, oh, Seigneur, tu as tellement raison. Mes enfants m'imitent. Et parce que le péché est attaché à leur cœur, c'est bien plus facile d'imiter papa quand il est niaiseux puis qu'il fait des erreurs et des péchés que de voir la beauté de Dieu dans sa vie. Vous savez, je pense qu'on est tous capables de voir cette réalité-là dans nos vies et je vais taper sur le même clou ce matin tout le temps. Si vous êtes un père, une mère, un grand-père, un ami, est-ce que vous reflétez la parole de Dieu? Et maintenant, chaque fois que mes enfants font ça, je suis obligé en tant que père de dire, je m'excuse de t'avoir montré ça, mon fils. Et vous savez, en toute honnêteté, j'ai enseigné à mes enfants des choses que je suis un petit peu honteux. Je suis très sarcastique dans la vie, mes enfants sont sarcastiques. C'est pas une bonne chose, mais des fois, je ris pareil. Mais je suis appelé à leur montrer le pardon. Vous savez, le combat commence humblement, à genoux, en tant que chrétien, à trouver la face de Dieu, à aimer Dieu, à s'efforcer d'aimer Dieu quand c'est difficile, à tenir la foi quand on vit, on passe par des moments difficiles, quand on tombe malade, quand ils font des niaiseries, quand on est sur le bord de péter une coche. C'est important pour eux de voir qu'on est des exemples. La Bible devrait faire partie intégrante de ma vie. Est-ce qu'ils vont entendre parler de Dieu et ils vont me voir être actif pour Dieu juste le dimanche matin? Est-ce qu'ils me voient être actif dans ma vie chrétienne, dans ma vie de prière, juste le dimanche matin? Ou le vendredi soir? Et là, j'aimerais vous dire, c'est pas plus facile parce qu'on est pasteur. C'est pas plus facile pour moi parce que mes enfants assimilent, papa lit la Bible, ils travaillent. Et même quand je travaille pas puis je lis ma Bible, je travaille. Ils ont assimilé la Bible, pour papa, c'est du travail. Est-ce que c'est ça que je veux inculquer à mes enfants? Non. Je veux inculquer à mes enfants que c'est la vie, que papa il trouve la capacité de ne pas péter des coches, de ne pas pécher constamment, de ne pas se rebeller contre Dieu parce que la parole de Dieu vient imprégner toutes les parties de ma vie. Et je suis appelé à être un exemple de caractère. Et là, quand mon caractère va être bon, quand j'ai eu un temps avec mes enfants et que là, j'ai pu leur expliquer à demander pardon, j'ai pu les reprendre avec amour, là, mes paroles vont avoir du sens. Quand mon enfant fait une crise puis se pète la tête sur ses murs, les vôtres font pas ça, mais les miens, oui. Là. Et là, je le prends, je le calme. Et là, je passe du temps avec lui. Je lui parle de la parole de Dieu. Je ne peux pas juste lui dire que ça n'a pas d'allure de se péter la tête sur ses murs puis qu'il pourrait faire une commotion. Non! Je lui parle pas non plus que ça va coûter cher de gyps. Non! Je lui parle du Seigneur. Je lui parle de Jésus. Et là, quand je pense que j'ai eu une bonne journée, je retourne dans la parole de Dieu et là, Dieu me dit, ne te compare pas au voisin, regarde à Christ. Et là, je retombe à genoux. Seigneur, j'ai encore manqué mon coup. Parce que dans mes actions, j'ai réussi, mais dans mes pensées, mon âme n'était pas entièrement à toi. Et là, je vais être obligé encore de confier mes enfants d'une façon vraie et réelle à Dieu. Ma question ce matin, est-ce que tu connais l'Éternel comme le seul Dieu et Seigneur dans ta vie? Si Dieu, Jésus, est le Dieu et le Seigneur de ta vie, tu bâtis sur les bonnes bases. Si Jésus est ton sauveur et que tu es très reconnaissant de ne pas aller en enfer, mais que ta relation avec Dieu se limite à ça, c'est ça que tu vas inculquer à tes enfants. Et tu as beau dire le contraire, tes enfants le voient. Vous savez, avec les boys, le groupe des hommes 25-40 quelques années, on fait un temps, un conseil pour, on fait un cours pour l'ancien homme, je vais le dire. Et dans le cours d'ancien, il y a un moment où on s'est fait donner une feuille sur l'orgueil. Et il y a deux types d'orgueil. Il y a l'orgueil fort, qu'on reconnaît tous, et il y a l'orgueil faible, qui est vouloir plaire aux autres. Et là, on regardait la feuille entre boys, puis là, on riait un peu. Là, ah ouais, moi, je suis pas mal faible. Ah ouais, moi, je suis plus fort là-dessus. Et là, le devoir, c'était pas les gars regarder la feuille et remplissez-la. Non, non, le devoir, c'était prendre la feuille et donner-la à ta femme. Oh. Et là, il a poussé plus loin, en privé après, il a dit, prends la feuille puis donne-la à tes enfants. Oh, ça, ça pique. Parce que vous savez, c'est les réalités qu'on doit vivre. L'Évangile, moi, le dimanche matin, là, OK, je ne suis pas tout le temps peigné parfait, mais ça a l'air de bien aller tout le temps. Là. Mais la réalité, c'est que peut-être que la semaine, là, mes enfants, ils ont peut-être fait des niaiseries que vous auriez honte. Là. Et parfois, dans mon éducation, malheureusement, je vais réagir, pas quand c'est le temps. Non, non, quand je commence en tant qu'adulte à perdre la face devant les autres adultes. Ah, quand c'est dans les quatre coins de ma maison, pas grave. Les gens ne le verront pas. Mais là, quand ça sort des confins de ma maison puis que ça commence à éclabousser ma personne, là, je vais commencer à agir. Est-ce que je suis en train de transmettre la foi à mes enfants? Non, je suis en train de sauver la face. Alors, vous comprenez, le but du texte de ce matin, c'est vraiment, et là, il dit, tu l'inculqueras, Deutéronome 6, à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, dans le privé, quand tu iras en voyage, quand tu n'es pas chez vous, quand tu te coucheras, donc, quand c'est un temps plus silencieux, quand tu te lèveras, que là, tu es en train de commencer à travailler. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ça va être visible dans ta vie. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux, donc tu vas diriger ta vie avec ça toujours en tête. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison. La maison, elle est fonctionnelle pour Dieu. C'est pas toujours propre, c'est pas toujours parfait, mais l'Éternel est toujours au centre. C'est là qu'on est. Le deuxième point qui bâtit sur le premier, c'est la constance. Est-ce que je vis en montagne russe? Que des journées où ça va bien, des journées où ça va mal, des journées où ça va bien, des journées où ça va mal. Là, dépendant de quel pied je me suis levé, de si les Canadiens ont gagné ou pas, de comment ça va aller à job. Mais là, ça va changer. Dépendant de comment mon compte en banque va, comment ça a été avec ma femme. Est-ce que je vis en dents de scie? Ou est-ce que je suis constamment, pas parfait, à la recherche de la présence de Christ dans ma vie? C'est ça le défi. Vous savez, le défi, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les... On a toute une version différente. Contre les esprits méchants dans le ciel, contre les princes et les dénominations, contre tout ce qui veut détruire la beauté de Dieu dans nos vies. OK? Et le combat, il est intense. Et savez-vous quoi? Il n'y a aucune victoire sans la présence de Christ. Il n'y a aucune victoire sans la lecture de la parole de Dieu. Il n'y a aucune victoire sans la prière. Je dois être constant. Faire de ma relation avec Dieu une priorité. À tous les jours, constamment. Je vous invite à tourner dans Psaume 78 et on va lire les 8 premiers versets. Donc, dans le Psaume 78, c'est un cantique d'Asaph, probablement écrit par David et donné à Asaph afin qu'il le donne au peuple, afin que ça devienne une chanson. Et dépassé les versets 8, David rappelle un peu la rébellion d'Israël une fois qu'ils ont eu le pays, une fois qu'ils ont reçu le pays de Dieu, comment certaines tribus à certains moments se sont rebellées contre Dieu. Et au début, il demande à Israël, au peuple, au verset 7 et 8, il leur rappelle de mettre en Dieu leur confiance et de ne pas être comme leur père. Donc, on va le lire ensemble. On va laisser la parole parler à nos cœurs. Donc, « Mon peuple, écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à nos enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a donné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants. » Afin qu'ils misent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent les commandements. Afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Dans nos vies, on est appelé à communiquer qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie? Qu'est-ce que Dieu a fait dans le passé? Afin que nos enfants puissent bâtir sur des choses solides. Il y a trois choses qu'on peut partager à nos enfants qui sont simples et faciles. Les louanges de Dieu. Est-ce que j'apprends à mes enfants à louer Dieu? Est-ce que j'apprends à mes enfants à s'émerveiller de ce que Dieu fait, de sa nature, de sa grandeur? Est-ce que je les amène en randonnée, puis que le rendu sur le top de la montagne, je peux prendre un temps de dire, « Ah, t'as-tu vu comment Dieu a créé des belles choses? As-tu vu comment Dieu... » Et mes enfants s'amusent parfois à lire les panneaux quand on se promène. Et là, des fois, c'est comme « Ah, c'est tellement beau! Wow, Dieu fait des belles choses! » Puis là, ils lisent le panneau. « Ceci a été créé sur des milliards d'années, puis tout. » Puis là, ils sont fâchés. Mais est-ce que j'apprends à mes enfants à être des adorateurs en tout temps? Est-ce que quand je vais à la pêche avec mon gars, puis que là, pour 5 minutes, il arrête de parler, puis que là, on entend la nature, est-ce que je lui dis « Remarques-tu, la nature chante la gloire de Dieu? » Ah, oui. Blablabla. C'est correct. Je passe du bon temps. Est-ce que je partage avec Dieu, est-ce que je partage les prodiges? Est-ce que j'enseigne à mes enfants la puissance de Dieu? Est-ce qu'ils voient dans ma vie que je crois que Dieu fait ce qu'il a dit qu'il allait faire? Est-ce que je crois vraiment ce que Dieu a fait dans le passé? Comment il s'est révélé? Est-ce que j'y crois? Est-ce que je prends la loi de Dieu au sérieux et je l'applique à ma vie, pas par but légaliste, mais parce que je veux être capable de dire constamment, « Seigneur, je t'aime. Seigneur, je ne peux pas réussir la loi si tu n'es pas dans mon cœur. » Est-ce que je communique cette réalité-là à mes enfants? Seigneur, ta loi devrait être cachée dans mon cœur. Mais Seigneur, tu l'as bien cachée parce que j'ai de la misère à la faire. J'ai besoin de toi. Est-ce que je suis conséquent de cette réalité-là? Est-ce que chaque matin, je prie le Seigneur, « Seigneur, ne m'enlève pas mes enfants. » Parce que chaque jour avec mes enfants est une bénédiction de Dieu. Je ne devrais pas seulement prier ça quand ils sont malades, à tous les jours. « Seigneur, ne m'enlève pas mes enfants. Aide-moi à les aimer. Aide-moi à les enseigner. » Glorifie-toi dans leur vie. Aide-moi à poser les bons fondements. Et je termine avec ça rapidement. Poser les bonnes bases et être ferme sur leurs valeurs. Vous savez, quand on regarde l'idée de la loi, je vous annonce pour ceux qui se demandent de quoi il parle des 5 premiers livres de la Bible. Et j'aimerais vous encourager à poser les bonnes bases avec vos enfants les bonnes bases, il y a les 11 premiers versets de la Bible, les 11 premiers chapitres de la Bible sont la fondation sur laquelle notre foi est construite. Les 11 premiers chapitres de la Bible, c'est la création de Dieu. Ex nihilo, à partir de rien, par sa puissante parole, sans aucun apport externe. Dieu a créé, Dieu dit et cela fut. C'est Genèse 3, la chute de l'homme, la création d'Adam à l'image de Dieu, la valeur humaine posée, le fondement solide que nous avons une valeur parce que nous sommes créés, même dans notre nature pécheresse, à l'image de Dieu. Nous sommes créés avec l'image de Dieu en nous. Chapitre 3, nous sommes tombés, nous avons déchu et maintenant nous avons besoin d'un sauveur. Fondation biblique, Genèse 3. Genèse 6, le déluge. Si la Bible n'est pas crédible sur le déluge, si je tasse le déluge parce que je pense que ce n'est pas scientifiquement possible, je viens d'enlever toute crédibilité au restant de la Bible. On va ensuite au chapitre 11, Babel, la séparation du monde, le mix des langages. Si je ne crois pas en Babel, si je ne crois pas au déluge, je viens d'enlever une crédibilité au restant de la Bible. Parce que si la Bible n'est pas crédible dans ses 11 premiers chapitres, pourquoi l'Évangile serait important? Si l'homme n'a pas été créé bon, sans péché, mais malheureusement capable de pécher, afin que Dieu soit glorifié en toutes choses, dans le fait qu'il allait nous donner le salut éternel par la personne de Christ et que Christ, lui-même Dieu, serait glorifié éternellement dans ma vie par ma capacité à exprimer mon remerciement à lui. Si la Bible n'est pas crédible dans cette réalité-là de Genèse 3, pourquoi j'aurais besoin du salut? Si la Bible n'est pas crédible quand elle me dit que Dieu a créé toute chose par sa parole toute puissante et pas il y a des milliards d'années, et que la mort est entrée dans Genèse 3, pas avant, pourquoi est-ce que je croirais la Bible? Je dois, en tant que chrétien, poser un fondement solide basé sur la parole de Dieu. Si je néglige de poser ce fondement-là solide, ce que je vais dire par la suite n'est pas basé sur la Bible. Et donc, si je veux inculquer à mes enfants la réalité de Jésus et la réalité de Dieu, je ne pourrais pas le faire sur la parole de Dieu si je ne donne pas sa pleine valeur à Genèse. Si, quand je regarde l'Exode, je me dis, « Ah, ça se peut pas, voyons. Il mouille des grenouilles. Il fait noir toute la journée. Il pleut du feu du ciel. Voyons, toi, que tous les premiers-nés sont morts en même temps. » L'Évangile, qui était annoncé d'avance, va perdre sa force. Donc, vous voyez, on est appelé à connaître Dieu en tant que chrétien. C'est la base de partager la foi à nos enfants. On est appelé ensuite à partager la réalité de Dieu, poser les bonnes bases. Donc, Genèse 1 à 11. Ensuite, la loi. Est-ce que j'enseigne les 10 commandements à mes enfants? Pourquoi? Voyons, les 10 commandements, Marco, c'est l'Ancien Testament. Parce que les 10 commandements sont un pédagogue, un enseignant, pour m'amener à Christ. Celui ou celle ici qui est capable de dire, moi je respecte les 10 commandements en tout temps, ben, good job. Je pense que tu viens de failer le 7e, mais c'est pas grave. On est appelé à réaliser que c'est impossible. Le but de la loi, nous dit Paul dans Galates, c'est de nous conduire à Christ. C'est d'enlever tout espoir humain que je suis capable de réaliser ça moi-même. Et là, Dieu, il les enlève toutes. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Hein? Fini. On a tout échoué. Mais vu que lui, il est spirituel, on va aux autres. Hein? Vous vous souvenez, on a parlé de ça récemment. On va à l'autre. Puis là, on se dit, ah, celui-là, je l'ai réussi, celui-là, je ne l'ai pas eu. La réalité, c'est que l'idée des commandements, c'est comme une chaîne. Si j'en brise un, il n'y a plus de chaîne. L'autre base que je veux garder, c'est que le salut est en Jésus seul. Est-ce que Jésus est une option pour vous? Est-ce que Jésus est seulement une option? dans le panthéon des religions du monde? Est-ce que vous pensez que, oui, Jésus, c'est bon, mais c'est Jésus plus les bonnes œuvres? Jésus plus les sacrements? Jésus plus la prière? Jésus plus... Nommez ce que vous voulez. Et c'est là qu'on tombe dans un combat spirituel. Parce que rester en tant que croyant basé sur la réalité que c'est seulement en Jésus, seulement en son œuvre à lui, que je n'ai aucun mérite, mais que tout le mérite qui est le mien, dans la transmission même de la foi à mes enfants, ce n'est pas moi qui peux sauver mes enfants, ce n'est pas moi qui peux leur faire comprendre la grâce de Dieu, elle se vit personnellement entre eux et Dieu. Mais en tant que parent, je suis responsable d'être un exemple en tout temps de la grâce, de l'amour de Dieu inconditionnel, de sa patience, de sa sévérité et du sérieux de suivre Jésus. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de programme qui nous assure que nos enfants vont suivre. Il y a seulement l'Esprit de Dieu qui agit en eux. Est-ce que ma foi fait confiance à Christ? Est-ce que je confie mes enfants à Dieu chaque matin? Est-ce que je confesse à Dieu mon incapacité à remplir les demandes de Dieu? Et là, quand je réalise mon incapacité, je tombe à genoux et je tombe en adoration devant un Dieu qui a fourni dans l'éternité passée un plan parfait en Christ, un salut parfait, un pardon complet. Et que non seulement je m'applique ce pardon à ma vie, mais je le souhaite à mes enfants, je le transmets à mes enfants, je le montre à mes enfants, je le vis dans mes enfants. Est-ce que je cours afin d'atteindre le but de Christ représenté de façon forte dans ma vie afin qu'il puisse toucher mes enfants? Le combat se fait, le combat est spirituel, donc le combat se fait dans la prière. Prier pour nos enfants. Prier pour leur salut. Prier pour leur protection. Remercier Dieu de les avoir donnés, même quand ils sont haïssables. Remercier Dieu de les avoir quand on a un bon temps. Remercier Dieu que les bons temps ne viennent pas du fait que je suis un père exceptionnel. C'est une grâce de Dieu. Ne pas prendre pour acquis que là, ça va bien, donc ça va aller bien demain. Le combat, il est spirituel. Le combat se fait dans la prière. Et le combat se fait dans l'amour. Si mon foyer est en complète distorsion, s'il n'y a pas d'amour entre moi et ma femme, si nos enfants voient constamment de la chicane, voient constamment le chaos, ils vont reproduire ce que leur cœur pécheur trouve le plus facile. Donc, ils vont reproduire le chaos parce que les choses spirituelles sont une discipline. Ce n'est pas donné au cœur de l'homme de les aimer. C'est l'Esprit Saint dans vous, c'est l'Esprit Saint dans vos enfants et c'est l'Esprit Saint dans l'Église. Pour tous les parents ou les grands-parents qui se sentent ce matin comme moi un peu poche, pour exprimer une réalité, sachez qu'il n'est jamais trop tard. Dieu est un Dieu plus puissant qu'on pense. C'est toujours le temps de commencer à prier. Bien humblement, pour le salut de nos enfants, pour que l'Esprit les touche. Parfois, on doit prier que nos enfants soient brisés par Dieu. Parfois, on doit accepter la douleur. Parfois, on doit voir nos enfants souffrir parce qu'ils prennent des mauvaises décisions. Et ça, c'est dur sur notre cœur de parents. Mais Dieu les aime. Dieu veut les sauver. Dieu veut les toucher par son Esprit Saint. Et Dieu nous confie une tâche que vous et moi, on va être incapables de faire si ce n'est pas par la grâce de Dieu. Et donc, En résumé, l'équipe de louange peut s'avancer. En résumé, on ramène ça à la plus simple formule. Est-ce que j'aime Dieu de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée? Et je le vis constamment dans ma vie. Est-ce que j'ai posé les bonnes bases pour mes enfants et maintenant je les tiens? Même quand ils vont me blaster ou me traiter de tous les noms parce que je crois en la Bible. Est-ce que j'aime mes enfants, peu importe ce qui se passe? Et est-ce que je les confie constamment au Dieu d'amour, au Dieu sauveur et au Dieu créateur? Est-ce que Dieu est assez important dans ma vie pour que je ne le néglige pas et que je lui donne la priorité? Sur ce, prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour ta grâce dans nos vies. Seigneur, merci que tu es un Dieu qui nous aime. Tu es un Dieu qui nous donne ton Esprit Saint afin que notre vie spirituelle ne dépende pas de notre propre capacité, mais bien qu'elle soit une grâce qui vient de toi. Seigneur Jésus, on te confie chacun de nos enfants. On te confie, Seigneur, notre incapacité à transmettre la foi d'une façon parfaite. Mais Seigneur Jésus, on te demande simplement, bien humblement, de pouvoir travailler dans le cœur de nos enfants, dans nos cœurs personnels. Là où il y a des manquements, Seigneur, qu'on puisse se tourner vers toi, qu'on puisse chercher ta face. Seigneur, pour nos enfants qui ne suivent pas, Seigneur, je te prie de les toucher d'une façon exceptionnelle. Peut-être les briser, Seigneur, mais que tu puisses nous aider à être des instruments d'amour et de paix, alors qu'on va partager ton évangile avec eux. Seigneur Jésus, aide-nous à faire de toi nos délices, afin que ce soit visible pour nos enfants. Afin, Seigneur, qu'ils ne voient pas qu'on dit une chose et qu'on en vit une autre. Seigneur, on a besoin de toi constamment, afin que tu sois le centre de nos vies, de notre adoration, de nos désirs. Et Seigneur, que tu puisses vraiment nous fortifier tous et chacun, soit avec l'Église, soit avec les gens de l'Église, nos enfants, nos petits-enfants. Seigneur Dieu, touche, ramène, sauve comme seul toi peux le faire. Seigneur, on te prie parce que tu es un Dieu qui est bon. On te prie parce que tu es un Dieu qui est puissant. On veut annoncer à nos enfants, Seigneur, la puissance que tu as, la puissance de ton bras, la profondeur de ton amour, la perfection de ton être. Seigneur Jésus, aide-nous à tomber constamment en adoration pour toi et à te confier nos enfants dans les bons et les mauvais jours. Seigneur, à te confier nos couples dans les bons et les mauvais jours. Jésus, te confier notre Église, notre évangélisation dans les bons et dans les mauvais jours. Seigneur, on veut te confier nos faiblesses, on veut te confier nos manquements et on veut te faire confiance pleinement à la gloire de ton nom, Jésus. Sois béni et sois glorifié, mon Dieu.